Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 30 mars 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran ne mettra fin à l'enrichissement de 20% d'uranium, mais que si les sanctions américaines sont levées, a souligné un non-responsable iranien. Les sanctions font perdurer la crise yéménite, selon l'ambassadeur permanent de l'Iran auprès de l'ONU. Les terroristes saoudiens interdisent l'évacuation des habitants via les couloirs humanitaires, selon Moscou. Le gouvernement de Sanaa a contraint les États-Unis et les Nations Unies de faire une distinction entre les questions humanitaires et les affaires militaires et politiques. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. L'Iran ne mettra fin à l'enrichissement de 20% d'uranium que si les sanctions américaines sont levées, a souligné une source à Presse TV. Un non-responsable iranien a déclaré à Presse TV que Téhéran n'arrêtera pas l'enrichissement à 20% d'uranium avant la levée des sanctions américaines. L'enrichissement à 20% d'uranium est conforme au paragraphe 36 du plan global d'action conjoint à l'accord sur le nucléaire iranien. Elle ne sera arrêtée que si les États-Unis lèvent toutes les sanctions, a souligné ce responsable iranien. Il a déclaré que de Téhéran ne cesserait aucune de ses activités nucléaires actuelles avant la levée de toutes les sanctions. L'administration Biden perd du temps et si elle ne parvient à pas lever les sanctions bientôt, l'Iran prendra les prochaines mesures qui seront une nouvelle réduction de ses engagements pris dans le cadre du plan global d'action conjoint, a conclu ce responsable iranien. Le représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartelavanchi, qualifiant l'imposition de sanctions unilatérales contre la Syrie de mesures néfastes, a déclaré que ces mesures ne font que prolonger la crise de ce pays et les souffrances de son peuple qui souffre d'autres difficultés telles que l'épidémie du Covid-19. Ce responsable iranien s'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie a ajouté le récent rapport du secrétaire général de l'ONU sur la menace de famine en Syrie en 2021, met l'accent sur l'impératif et l'urgence de se mobiliser à l'échelle internationale pour trouver une issue à la crise. Bien que la fourniture d'une assistance humanitaire à ceux qui en ont besoin soit la priorité des priorités, mais faire recours à une telle réponse à long terme ne résoudra pas à elle seule le problème et ne pourra pas non plus remplacer les mesures de base qui sont essentielles pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité durable dans le pays, a souligné Majid Tartaravanchi, représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les terroristes à Idlib continuent à priver les habitants des aides humanitaires et à leur interdire de sortir via les couloirs humanitaires en les prenant comme boucliers humains. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité via la vidéoconférence, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Verchinin, a dit que les aides humanitaires ne sont pas octroyées aux personnes qui en ont besoin à Idlib, mais les terroristes qui font du chantage aux habitants de la ville et qui les prennent comme boucliers humains s'en emparent. D'autre part, l'ex-sénateur américain Richard Black a affirmé que les États-Unis apportent leur soutien au réseau terroriste dans le but de détruire la Syrie, épier ses richesses et imposer des sanctions pour priver le peuple syrien des nécessités de vie, appelant à arrêter cette folie. Dans un discours prononcé lors de la conférence de l'Institut mondial de Killer aux États-Unis sur l'agressivité des États-Unis et la guerre terroriste contre la Syrie, Black a indiqué que l'Occident aime les terroristes détestés par le peuple syrien. Les États-Unis ne mènent pas une guerre contre le terrorisme comme ils le prétendent, mais ils sont un allié proche des terroristes de l'Al-Qaïda pour exécuter leur agenda politique et détruire les pays qui refusent leur dictat, a-t-il ajouté encore. Il a souligné que Washington avait depuis de l'an 2006 des plans détaillés pour déstabiliser la Syrie et que les commerçants d'armes américains profitent des transactions de missiles antichars fournis par la CIA au réseau terroriste pour tuer les innocents. Le gouvernement de Sanaa au Yémen a contraint les États-Unis et les Nations Unies de faire une distinction entre les questions humanitaires et les affaires militaires et politiques. Des négociations intensives sont en cours à Mascate, capitale omanaise, dans l'espoir de trouver une solution diplomatique à la crise du Yémen. Dans la foulée, Abdel Malek Al-Ajari, un membre de la délégation de négociation de Sanaa, a déclaré que les États-Unis et les Nations Unies avaient échangé de cap. Cité par le site d'information Al-Khabar al-Yémeni, il a déclaré que le médiateur omanais avait fait part à la délégation de Sanaa du feu vert implicite de Martin Griffiths, émissaire spécial des Nations Unies pour le Yémen, à la proposition du gouvernement de Sanaa concernant la distinction entre les questions humanitaires et les affaires politiques et militaires. Séoul demande le soutien de Moscou dans la dénucléarisation de la péninsule sur fond de ressentir de missiles de la Corée du Nord. Séoul se dit profondément préoccupé et demande l'aide et le soutien de la Russie pour instaurer la paix dans la péninsule coréenne. La Corée du Sud a appelé la Russie à lui fournir un soutien dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne quelques jours après que son voisin septentrional a effectué des tirs de missiles balistiques à courte portée, a déclaré aux journalistes un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense. Côte d'Ivoire, deux soldats et un gendarme est tué dans deux attaques dans le nord du pays. Deux soldats et un gendarme ont été tués dans deux attaques survenues contre les positions des forces armées de Côte d'Ivoire dans le nord du pays, a confirmé l'état-major des armées ivoiriennes dans un communiqué. Cité par le communiqué, le général Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées ivoiriennes, a indiqué que deux positions des forces armées de Côte d'Ivoire ont subi des attaques armées dans la nuit de dimanche à lundi. La première est survenue à Kafolo et le fait d'une soixantaine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso, a-t-il précisé. Le bilan provisoire faisait état de deux soldats tués, quatre blessés côté ivoiriens et côté ennemi, trois terroristes tués, quatre interpellés et du matériel logistique saisi, toujours selon ce communiqué de l'état-major des armées ivoiriennes. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Yémen, c'est des négociations intensives en cours à Mascate, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Des négociations intensives sont en cours à Mascate, capitale omanaise, dans l'espoir de trouver une solution diplomatique à la crise du Yémen. Dans la foulée, à Abdel Malek al-Ajari, un membre de la délégation de négociation de Sanaa, a déclaré que les États-Unis et les Nations Unies avaient changé de cap. Cité par le site d'information Al-Khabar al-Yémeni, Abdel Malek al-Ajari a déclaré que le médiateur omani avait fait part à la délégation de Sanaa du faveur implicite de Martin Griffiths, émissaire spécial des Nations Unies pour le Yémen, à la proposition du gouvernement de Sanaa concernant la distinction entre les questions humanitaires et les affaires politiques et militaires. C'est la raison pour laquelle la délégation du gouvernement de Sanaa a accepté, après des mois, de revenir à la table du dialogue à Mascate, a-t-il ajouté. Selon ce dernier, Martin Griffiths, émissaire de l'ONU, et de Timothy Lenderking, émissaire américain pour le Yémen, se trouvent actuellement à Riyad pour convaincre les dirigeants saoudiens de se soumettre à la proposition du gouvernement de Sanaa. Se référant à ses propres sources, Al-Khabar al-Yémeni a rapporté que les émissaires des Nations Unies et des États-Unis avaient demandé aux dirigeants du gouvernement démissionnaire et fugitif de Mansour Hadi de faire une distinction entre les questions humanitaires et les affaires politiques et militaires en leur soulignant que cette question leur importait beaucoup. Cependant, même avant que Griffiths et Lenderking n'arrivent à Riyad, les dirigeants saoudiens ont lancé une campagne pour suggérer que les Américains collaboreraient avec Ansar Allah. Parmi les conditions posées par le gouvernement de salut national du Yémen figure la réouverture totale de l'aéroport de Sanaa et la possibilité de s'envoler sans aucune restriction à n'importe quelle destination, ainsi que la levée du blocus du port de Houdaïda et la cessation des attaques aériennes et terrestres. Il existe également d'autres conditions que les émissaires des Nations Unies et des États-Unis devraient confier aux dirigeants saoudiens. Et selon Akhbar al-Yaoum, les délégations américaines, européennes et celles des Nations Unies ont promis à la délégation de Sanaa de convaincre l'Arabie Saoudite de modifier son nouveau plan. Sur le terrain, l'armée et les comités populaires ont réussi à reprendre le contrôle de deux nouvelles régions à l'ouest de la province de Ma'arib. Ce lundi 29 mars, des sources concordantes yéménites ont confié à la chaîne de télévision Al-Mayadeen que le combattants des comités populaires et les forces de l'armée yéménite avaient repris le contrôle de Hama al-Zab et Nakhta de Nakhla à Sirwa, à l'ouest de la province de Ma'arib. Les forces yéménites ont également enregistré des progrès dans des parties de Sirwa et de Matral au nord-ouest de la province de Ma'arib. La province de Ma'arib est depuis deux mois le théâtre d'intenses affrontements opposant les combattants auprès du gouvernement de salut national aux mercenaires de la coalition d'agression saoudienne et les milices à la solde du gouvernement auprès des missionnaires et fugitifs de Mansour Hadi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Ce 26 mars marque le sixième anniversaire de la guerre déclenchée par la coalition saoudienne contre le Yémen. Six ans se sont écoulés depuis le début de cette guerre criminelle. Cette guerre a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants, détruit des infrastructures vitales du pays et provoqué, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde. Un certain nombre de pays arabes, tels que les Émirats arabes unis, ont en effet soutenu l'Arabie saoudite dans cette guerre, mais aussi plusieurs pays occidentaux. À leur tête, les États-Unis et la France se sont rendus complices des crimes de guerre de l'Arabie saoudite au Yémen en vendant massivement des armes à la coalition saoudienne. À cette occasion, le porte-parole de la diplomatie iranienne a appelé à la fin de la guerre déclenchée par l'Arabie saoudite et la fin, en effet, du blocus imposé au Yémen et souligné que, en effet, la crise au Yémen n'avait pas de solution militaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces six ans de résistance héroïque du peuple yéménite contre l'Arabie saoudite et ses alliés. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Au Yémen, la vraie fausse offre de paix de Riyad, qui vise à vrai dire à éterniser la guerre à des doses moindres, a reçu sa réponse. La guerre pour la libération du Yémen se poursuivra jusqu'au bout. Le nom d'Ansar Allah s'explique selon Rai Al-Yom de façon suivante. Premièrement, Ansar Allah qui fait avancer ses forces à Ma'arib, bien que lentement en raison des frappes intenses de la coalition, ne peut s'engager dans aucune négociation ou cessez-le-feu, sauf après avoir contrôlé cette ville historique et qui est très riche en réserves de pétrole et de gaz. Deuxièmement, la résistance yéménite n'a aucune confiance au bout de six ans de guerre déloyale de Riyad et compagnie en la partie saoudienne et dans son discours sur l'ouverture de l'aéroport de Sanaa, qu'elle dit être conditionné et limité. Au fait, Riyad cherche surtout à y maintenir son emprise et faire de cette ouverture un moyen de chantage. Troisièmement, les garanties internationales n'ont aucune valeur. Les autorisations qui ont été délivrées par les Nations Unies via leur siège à Djibouti pour que les navires entrent dans le port de Houdaïda n'ont jamais été respectées. Quatrièmement, lier le dossier humanitaire au dossier militaire, un des éléments les plus importants de l'initiative saoudienne, n'a pas été accepté par Ansar Allah, car la levée du siège sur les aéroports et les ports est un droit fondamental pour les 20 millions de Yéménites, et ce, indépendamment de l'action d'Ansar Allah. Et le journal de poursuivre. Cinquièmement, l'initiative saoudienne ignore la souveraineté yéménite, celle des îles yéménites occupées et du retrait des forces étrangères saoudiennes et émiraties, israéliennes et américaines. Et puis, la gestion de la guerre par Ansar Allah au cours des dernières années a été très efficace et l'adoption d'une politique de patience stratégique à long terme a remarquablement bien fonctionné. Le mouvement est de loin le vrai gagnant et c'est à lui d'imposer ses conditions. Et le texte de conclure ce que les dirigeants saoudiens semblent être incapables de réaliser, c'est que le Yémen de 2021 n'est pas celui de 2015 et qu'Ansar Allah est une puissance émergente en mer de rouge avec qui il faut compter. Vaut mieux se rendre à cette évidence avant qu'il ne soit trop tard.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Arnaud Develay, juriste international depuis Damas, et Madame Aïssa Arbidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris. Madame Arbidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Mais bonjour à tout le monde, toute l'équipe PSTV et tous vos auditeurs.
Merci infiniment. Madame Arbidani, ce 26 mars marque le 6e anniversaire de la guerre dévastatrice déclenchée par l'Arabie saoudite et ses alliés régionaux et occidentaux contre le Yémen. Une première question, justement, parce que justement ces derniers temps, d'importantes évolutions se sont produites, notamment sur le front, avec des victoires consécutives de la résistance yéménite, mais aussi sur le plan politique, d'autant plus que le chef de la diplomatie saoudienne a été contraint, en quelque sorte, de proposer une trêve aux yéménites. Alors, quel regard rétrospectif portez-vous, Madame Arbidani, sur ces 6 ans de résistance héroïque du peuple yéménite contre Riyad et ses alliés?
Effectivement, alors, je voudrais saluer effectivement le peuple yéménite pour cette résistance héroïque et ces victoires qu'ils n'ont cessé de remporter face à des forces de destruction horribles et systématiques. En fait, les Saoudiens ont procédé, en fait, la coalition, je ne parle pas des Saoudiens seulement, la coalition qui est dirigée en fait par les États-Unis ou commanditée par les États-Unis en fait avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et ce sont et puis derrière il est certain qu'il y a les forces israéliennes. Ils n'ont pas cessé de mener des destructions systématiques de l'infrastructure yéménite. Ils n'ont pas cessé de s'attaquer aux installations vitales du peuple yéménite, les installations scolaires, universitaires, les installations hospitalières aussi, ainsi que toutes les installations qui sont liées à la vie, c'est-à-dire les installations électriques, les installations de distribution d'eau, etc. Malgré tout, le peuple yéménite, malgré des milliers et voire des millions de victimes, entre blessés et martyrs, le peuple yéménite n'a pas cédé, continue à se battre pour sa liberté, pour sa souveraineté, pour son indépendance. Je voudrais dire aussi que les Saoudiens ont procédé en fait par des dissensions créées. L'objectif, c'était toujours créer de la discorde et la dissension entre les différentes tribus et les différentes composantes du peuple yéménite. Le peuple yéménite s'y est opposé de manière très, très souveraine aussi. Ils ont réussi donc à s'unir tous ensemble, à faire un lien, en fait, et un réseau et en plus un véritable commandement populaire et de la révolution yéménite. Hein. Et donc, ils sont effectivement unis et par cette unité, ils ont aussi remporté de grandes victoires. Je voudrais aussi saluer leur créativité et leur esprit scientifique qui leur a permis aussi de faire développer et de développer leurs propres armes de manière à développer aussi bien des missiles de précision, des drones qui vont à des grandes distances, etc. Aussi, qui vont jusqu'à bombarder les, à des milliers de kilomètres les installations saoudiennes qui, en fait, pour exiger de l'Arabie saoudite qu'elle arrête ces destructions et ces bombardements.
Merci, Madame Midani.
Qui n'a jamais été faite et tenue compte par les Saoudiens.
Merci infiniment pour ces éclairages, Madame Midani. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Maître Arnaud Develet, juriste international à Damas. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Maître Midani.
Maître Develet, 6 ans après le début de la guerre dévastatrice déclenchée par l'Arabie saoudite contre le Yémen, où en est-on aujourd'hui de cette guerre, à la fois sur le plan humanitaire, mais aussi et surtout en ce qui concerne le rapport des forces sur le front?
Écoutez, sur un point humanitaire, il a été documenté de manière extensive que le conflit au Yémen est la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, alors même que les médias, si je puis dire mainstream, n'en parlent absolument pas. On parle de centaines de milliers de morts, on parle de conditions liées à la famine, liées au choléra, liées à l'absence d'accès aux soins, liées à la destruction systématique de lieux culturels, lieux de culte, hôpitaux, écoles. C'est une véritable entreprise systématique. Et j'appuie ce terme parce que c'est un terme qu'on retrouve dans les statuts des tribunaux internationaux sur non seulement les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, mais aussi génocide. Il faut se rappeler que la direction saoudienne a elle-même employé des termes extrêmement précis et incitateurs concernant le peuple yéménite, laissant entendre qu'il n'était essentiellement bon qu'à être éradiqué, quelque chose dans ce sens-là. Hein. Il y a eu des déclarations officielles et reprises par les médias. Et ceci constitue, selon moi, suffisamment d'éléments pour probablement lancer des procédures contre la direction saoudienne en ce qui concerne cette guerre. L'agression est caractérisée et visiblement toutes les injonctions des organes internationaux ont été ignorés, ce qui explique bien pourquoi effectivement le porte-parole du Tronc du Salut a souligné que les éléments portant sur les accords internationaux intermédiaires concernant l'acheminement de l'aide humanitaire n'avaient aucune valeur, puisque de toute façon la direction saoudienne ignore complètement le droit international le plus élémentaire et s'enfonce littéralement dans une spirale qui risquerait bien de le consumer à la fin de la journée, si je puis dire. Sur le rapport de force, Mme Midani l'a bien souligné, grâce à l'ingéniosité l'esprit de corps manifesté et exprimé par le Front du Salut, un arsenal des plus divers et des plus dévastateurs a été développé, qui permet maintenant à la résistance yéménite de porter la guerre au plus profond de l'Arabie saoudite, avec des frappes qui incapacitent complètement les aéroports, les ports, les terminaux pétroliers et les installations pétrolières, ce qui fait que l'Arabie saoudite est maintenant frappée dans son cœur, sens premier du terme, à savoir sa capacité à être d'une pertinence géostratégique pour ses alliés. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les alliés de l'Arabie saoudite vont profiter de cet état de faiblesse de la direction saoudienne pour une période qui pourrait à terme mener à un vide politique, ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes directement intervenir? Ça, c'est la question, à mon avis, dans l'état actuel des choses sur le terrain, qui est la question qui se pose.
Merci pour ces précisions, Maître Develet. Madame Midani, justement, concernant la dernière partie, des explications de Maître Develet. Aujourd'hui, bien sûr, la résistance yéménite est en position de force, d'où justement alors cette proposition de trêve avancée par le régime de Riyad. Mais Concernant les alliés de Riyad, justement, avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis, certains analystes sont d'avis que le président américain pourrait en effet lâcher son allié saoudien au Yémen. Ceci étant dit, quelle est selon vous la stratégie et le plan de l'administration Biden pour le Yémen, Madame Idani?
Écoutez, je crois que le Yémen est très important, en fait, de par sa position stratégique et de par sa position sur le passage des eaux, des passages maritimes, par où passent, les une quantité importante ou un pourcentage important de l'échange mondial de toutes les denrées, essentiellement aussi le pétrole, le gaz et les autres denrées entre l'Est, l'Ouest et donc qui passe par Bab el Mandeb. D'où cet acharnement en fait des Saoudiens et des Américains derrière, je dirais, contre le Yémen. Aujourd'hui, avec ces grandes victoires du Yémen, effectivement, on pourrait penser que l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou Biden pourraient lâcher l'Arabie Saoudite à son destin, je dirais, dans cette défaite. Mais n'empêche que je pense qu'il y aura toujours un plan B, en fait, qui va chercher à garder un pied dans la région. Ce plan B pourrait être l'agression israélienne et on sait qu'il s'appuie sur Israël et l'Arabie Saoudite dans la région et les Émirats. Ça, c'est un premier point. Mais je pense que l'Arabie Saoudite pourrait en faire les frais puisque cet affaiblissement du régime pourrait être le moment opportun pour un réveil du peuple saoudien qui déjà est très il perçoit très mal la politique actuelle de Mohammed bin Salman depuis déjà l'assassinat de l'imam Nomr et depuis les grandes répressions très violentes et très sanguinaires de l'ensemble du mouvement à Qatif. Donc le peuple, et puis surtout le comble, ça a été le fait que Mohammed bin Salman ait reçu Netanyahou en Arabie Saoudite. Il faut savoir quand même que la défense des lieux saints, c'est quelque chose qui est très cher, non seulement au peuple saoudien, mais à tous les musulmans. Donc aujourd'hui, effectivement, la victoire du Yémen et la victoire de la récupération en fait de la souveraineté yéménite sur la totalité des territoires du Yémen, y compris sur les îles de Socotra et l'autre île en fait, qui sont devenues pratiquement un centre d'espionnage contre les peuples de la région, un centre d'espionnage israélien contre les peuples de la région. Je pense que c'est effectivement, ça peut être des points importants dans la montée des victoires en fait et l'appui de ces victoires par le peuple saoudien. Donc en fait, face à cela, les Américains et les Israéliens, je dirais, ils n'auraient d'autre alternative que d'accepter l'état de fait. Ils agiront par d'autres moyens, mais de toute façon, c'est une très grande victoire et j'espère qu'il sera aussi afflué par le réveil des peuples du peuple de l'Arabie Saoudite aussi et puis de peuples du Golfe aussi, parce qu'on sait que Al-Bahreïn, C'est aussi un peuple qui est contre toutes ces mesures de coopération et de collaboration avec Israël. Les Émirats, on peut penser aussi qu'il y aura bien qu'ils se soient retirés à temps peut-être de cette agression contre le Yémen, mais bon, ça peut être un changement total dans la région de la presqu'île arabe et de toute cette de tous les États de cette
Merci,
région.
Madame
et
Delphine.
Donc ça pourra être contre tous les intérêts des Américains et Israéliens dans le secteur.
Merci infiniment, Madame Idani. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, face à Ansar Allah, cette puissance militaire et balistique émergente, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du tandem américano-israélien qui cherche bien entendu à atteindre ses intérêts géostratégiques dans cette partie importante du monde? Et puis, les marges de manœuvre et la place et les intérêts plutôt des pays comme la France qui se sont rendus complices, en effet, des crimes de guerre au Yémen en vendant des armes à la coalition saoudienne. Rappelez également que hier, justement, il y a eu un rassemblement à Paris pour dénoncer, justement, cette complicité de la France.
Bien, écoutez, je suis d'avis que les puissances occidentales, les États-Unis et l'Europe, mais aussi les Israéliens, de pied et main liés avec, les orientations stratégiques concernant leur relation assez intime, voire incestueuse avec la direction saoudienne actuelle. Quelles seraient leurs options à la marge? Vu que la situation militaire, la guerre est perdue, c'est pas fait. Elle ne peut que renforcer le destin inéluctable d'une vacance politique au plus haut niveau en Arabie Saoudite. Dans cet état de fait, il est difficile d'imaginer que les États-Unis et leurs alliés joueraient un peu avec le jeu dangereux de la surenchère et voir jusqu'où ça peut aller. Et je ne pense pas qu'ils aient la volonté politique d'intervenir directement. On pourrait peut-être, dans ces cas-là, assister à un recalibrage où l'équation politique en Arabie Saoudite reste dans son essence la même, mais avec un ajustement ponctuel au plus haut niveau. Le souci, c'est que les Israéliens ont beaucoup sur cette relation privilégiée lors de l'administration Trump avec Ben Salman. Que Ben Salman fait beaucoup de choses, il est tenu, si je puis dire, par les Israéliens. Il sait très bien que son destin dépend en fait de cette alliance contre nature avec les Israéliens, même si de temps en temps il émet le fait que la normalisation n'est pas à l'ordre du jour, mais je pense qu'en fait il n'a pas d'option. Donc c'est une situation après qu'il restera, si je puis dire, à surveiller de près, mais sur un plan régional, la situation actuelle, le statu quo ne peut pas rester, ne peut pas être conservé. Il faut qu'il y ait un changement pour qu'il y ait des pourparlers portant sur une solution politique sérieuse, pour que la résistance yéménite ait un interlocuteur dont le salut politique, le destin politique ne soit pas intrinsèquement lié au conflit au Yémen. Or, concernant Mohamed Ben Salman en tant que ministre de la Défense et initiateur premier, c'est l'auteur, il est le créateur de ce conflit, il a lié son destin politique à la victoire militaire et en cela, il n'est pas concevable que, dans sa tête, à lui en tout cas, de revenir en arrière et de faire des concessions qui finiraient d'acheter l'image qu'il souhaite projeter de lui-même au sein du royaume.
Maître Armand Develay, juriste international depuis Damas, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt. We'll be right back.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est active essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Ici la région de l'Asie de l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Ce samedi, à Téhéran, les ministres iraniens et chinois des Affaires étrangères ont signé le document d'un plan de coopération globale d'une durée de 25 ans. Le document du plan de coopération globale de la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine, connu sous le nom de plan de 25 ans, a été signé ce samedi après-midi par le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et son homologue chinois Wang Yi. Le ministre chinois des Affaires étrangères arrivé à Téhéran vendredi soir à l'invitation de son homologue iranien à l'occasion du 50e anniversaire des relations des diplomatiques Iran-Chine a inauguré de samedi avec Mohammad Javad Zarif une exposition des documents sur les relations Iran-Chine au siège du Centre d'études politiques internationales du ministère iranien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie chinoise a également rencontré le conseiller du leader de la révolution rebelle islamique. Lors de cet entretien, Wang a fait référence aux relations historique et amicale des deux pays est mise en exergue l'importance de la coopération dans le cadre d'un partenariat stratégique global. Il s'est dit satisfait de la finalisation du plan global qui garantit que les relations bilatérales ne seront jamais affectées par les conditions du jour, mais qu'elles seront permanentes et stratégiques. Ali Larijani, conseiller du guide suprême de la révolution islamique, a quant à lui déclaré que la République islamique d'Iran prend de manière indépendante des décisions sur ses relations avec d'autres pays. Elle ne change pas de cap, comme certains pays, seulement avec un coup de téléphone. De plus, le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré le président iranien Hassan Rouhani. Celui-ci a qualifié les relations avec la Chine de stratégiques et d'importantes. Évoquant la volonté des deux pays de coopérer à long terme, il a mis l'accent sur le développement et l'approfondissement des relations dans tous les domaines, y compris politiques et économiques. Téhéran et Pékin entretiennent de très bonnes relations et des positions communes des deux pays sur les questions internationales témoignent du niveau de souhaité, a souligné le président iranien. Il a par ailleurs loué le soutien de Pékin à l'accord sur le nucléaire iranien et à la lutte contre l'unilatéralisme et l'extravagance des États-Unis en condamnant les sanctions contre l'Iran. Concernant la coopération bilatérale Téhéran-Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine a toujours attaché une grande importance à cette question en faisant une priorité. La Chine s'est toujours opposée au maximalisme américain et aux sanctions unilatérales. La pression maximale est un acte illégal et inhumain qui n'a pas reçu le soutien international, a-t-il dit. Et simultanément à la visite officielle du président chinois Xi Jinping en Iran, le 20 février 2016, la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine ont promu dans une déclaration à l'époque le niveau des relations dans le cadre d'un partenariat stratégique et global sur la base de la proposition de la partie iranienne d'établir des relations à long terme sur une période de 25 ans. Les deux parties ont donné leur consentement pour entériner une coopération à long terme. Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec d'autres institutions, a élaboré un avant-projet du plan de coopération globale que M. Zarif a remis au gouvernement chinois en septembre 2019. Un an après, les autorités chinoises ont officiellement communiqué et d'annoncer leur avis sur le projet. Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec d'autres des institutions compétentes du pays, a examiné le document et les procédures judiciaires le 23 juillet 2020. Le président Rouhani a officiellement autorisé le ministère des Affaires étrangères à entamer des négociations pour la signature d'un plan de coopération englobant les intérêts mutuels. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a expliqué que ce document est d'ordre économique, politique et culturelle. Il met en exergue la participation de l'Iran à l'initiative de la ceinture et la route et le secteur privé des deux pays. Un convoi de soutien logistique de la coalition dirigée par les Américains en Irak a été visé par un engin explosif dans la province de Babel, au sud de Bagdad. Selon les médias irakiens, l'explosion a brûlé le pneu de l'un des véhicules du convoi sur l'autoroute située à proximité du pont Al-Dararat. Un chauffeur irakien a été blessé. Il travaillait pour une société de transport irakienne qui offre ses services aux forces américaines. La journée de la résistance au Yémen, 6 ans de guerre, ont montré leur échec. Des centaines de milliers de Yéménites ont manifesté vendredi 26 mars dans la capitale yéménite de Sanaa et dans différentes provinces du pays pour marquer leur persévérance et leur résistance face à 6 ans d'agression militaire de l'Arabie Saoudite contre leur pays, le plus pauvre d'ailleurs de la péninsule arabe. Le 26 mars de 2015, une coalition d'agression dirigée par l'Arabie Saoudite a lancé une guerre sans merci contre le Yémen sous prétexte d'appuyer le gouvernement démissionnaire à l'époque contre les forces de l'armée et d'Ansar Allah à Sanaa. 6 ans de guerre ont montré leur échec, a déclaré de Zaif Allah al-Shami, un non responsable d'Ansar Allah, entouré de milliers de manifestants brandissant des affiches sur la victoire de l'islam, scandant des slogans contre l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou encore le régime israélien. L'anniversaire de l'agression saoudienne, appelé de journée de la résistance côté yéménite, a coïncidé avec de nouvelles attaques spectaculaires des forces de Sanaa contre les cibles vitales en Arabie Saoudite. 18 drones et 8 missiles balistiques ont visé vendredi 26 mars les sièges du géant pétrolier saoudien Aramco à Ras Tanura, de Rabiq Yanbu, 10 ans, et la base du roi Abdulaziz à Dammam, ainsi que d'autres sites militaires saoudiens à Najran et Assir, a précisé le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. L'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bassam Sapar, a affirmé que certains pays membres du Conseil de sécurité ignorent délibérément les effets catastrophiques des mesures coercitives et illégales qu'il impose au peuple syrien, ce qui démontre qu'il n'envisage pas l'action humanitaire en Syrie, mais la réalisation des objectifs politiques en y exploitant la situation humanitaire. Lors d'une séance de tenue par le Conseil de sécurité via la vidéoconférence, Sapar a indiqué que le pays mentionné continue à exploiter le Conseil de sécurité en vue de politiser l'action humanitaire en Syrie et œuvre pour y diffuser la vision sélective de la situation humanitaire. Sapar a fait savoir qu'il vaut mieux que le Conseil de sécurité se tienne contre toute partie qui prive les Syriens de leur potentiel économique dont ils ont besoin et réclame aux États-Unis de mettre fin à l'occupation des territoires syriens et au soutien aux milices terroristes et séparatistes et d'arrêter le pillage des richesses syriennes. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.